Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour, aujourd'hui dans cette Univox, on va essayer de vous raconter une histoire, celle des mobilisations étudiantes du printemps 2018, vue depuis Rennes, fait par la Radio Syllab et ses bénévoles. Ces bénévoles qui sont des étudiants, donc pas des journalistes, qui sont donc parfois aussi des personnes mobilisées dans la lutte. Donc plus que de vous faire un journal d'information exhaustif, on va plutôt essayer de vous raconter une histoire telle qu'on l'a vécue ici à Syllab, telle que nos bénévoles s'en sont emparés.
Univox.
En France, il y a eu beaucoup de facs occupées de différentes manières. Ici à Rennes, il y a eu notamment l'occupation d'un bâtiment, le bâtiment B, qui a été renommé le Bayou. Et très rapidement, nos bénévoles ont été les premiers sur place, immergés au sein de cette occupation.
Ah mais tu m'en ramènes, hein, parce qu'on va faire des viandes, examen chocolat.
Mais moi je dis, il faudrait vraiment qu'on trouve un moule pour un truc d'examen, genre avec un livre, un attest, le machin avec son examen, et genre on l'a fait en chocolat, et genre on l'envoie à Emmanuel Macron.
Ouais, on envoie la photo, ouais.
Non, on envoie la tablette de chocolat avec la forme de l'examen à Emmanuel Macron.
Depuis bientôt 3 semaines, plusieurs dizaines d'étudiants occupent le bâtiment B de Rennes 2. Nuit et jour, ils font vivre le blocus et l'occupation. Léa, jeune étudiante rennaise, nous en dit un peu plus sur l'organisation.
Bah du coup, là, c'est la cuisine. Donc là, aujourd'hui, on a ramené de nouvelles assiettes, de nouveaux couverts pour éviter d'avoir des assiettes en carton et des fourchettes en plastique et que ce soit jeté et qu'on n'ait presque plus rien à l'arrivée. On a sur le côté, on a le repas pour le petit déjeuner. Enfin, on a des céréales, de la confiture, du pain, du 4 quarts et tout ça. On a une réserve de denrées qui sont au possible non périssables, donc des boîtes de conserve, du couscous, des pâtes et tout ça. Sur le côté là-bas, on a du thé, du filtre à café. On essaye de mettre aussi la vaisselle sale et on demande aux gens de la nettoyer le plus vite possible, quoi. Les aliments plus frais, bah, on essaye de les cuisiner dans la journée. Pour le lait, par contre, bah, on n'a pas de frigo pour le moment. Donc je sais pas comment on va faire. Et sinon, bah, on a une petite marmite au centre qu'on fait chauffer au gaz pour pouvoir réchauffer les aliments. Bah, on a eu une soirée, on a eu de la semoule, on a eu un couscous, on a eu une salade de fruits, on a eu un risotto et même 2 fois du risotto. Bah, en gros, il y a un pot commun qui est fait, donc ça dépend des journées. Des fois, il peut y avoir beaucoup d'argent, tout comme il peut ne pas y en avoir. Et on essaye de collectiviser la nourriture, donc on a une réserve dans la cuisine. Et sinon, les gens peuvent manger ce qu'il y a ou ramener des trucs de Carrefour. Et donc, en fait, les gens peuvent manger ou ne pas manger. Et on essaye de faire en sorte que la cuisine soit faite par tous et éviter qu'il y ait juste une personne qui soit désignée comme le cuisinier de l'occupation. Enfin. Bah, en gros, on essaye de mettre tout dans un seul endroit pour pouvoir faire le ménage. On a fait le ménage ce matin et on essaye de le faire assez régulièrement parce que ça devient assez sale. Le problème, c'est qu'on a remarqué que c'était souvent les meufs qui faisaient le ménage. Ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de faire une grève des meufs. Le problème, c'est que ça n'a pas tellement marché. Du coup, en fait, il y a eu l'idée ce matin, en gros, de demander aux gens, dès qu'ils entendent « top, top, on fait le ménage », bah, en fait, tout le monde fait le ménage. Donc aspirateur, balai, mettre du papier toilette dans les toilettes et tout ça.
Tout à l'heure, en venant jusqu'à la cuisine, on est passé devant un endroit où il y avait une fille en train de... qui était allongée, qui était en train de jouer. Du coup, c'est quoi ce coin, au final?
Bah, en gros, au départ, cette zone de jeu, en fait, elle était dans l'amphi B7. Puis on s'est dit, c'est quand même plus simple de mettre ça à la vue de tout le monde pour éviter que les gens se mettent juste dans un coin et fassent ça toute la journée. Donc là, en gros, la zone de jeu, là, pour le moment, il y a une Super Nintendo. Et... tout à l'heure, il y avait aussi une Xbox. Donc, en gros, l'idée, c'est les gens peuvent se détendre et donc les gens peuvent jouer à des jeux que les gens ramènent. Donc, il y a une Super Nintendo, mais les gens peuvent aussi ramener. On a vu il y a 2 semaines, c'était une Wii U qui a été ramenée. Donc, on peut ramener n'importe quelle console et y jouer. Tant qu'il y a des gens qui veulent jouer, bah, ils sont les bienvenus. Bah là, on est dans l'amphibésis qui a été ouvert il y a maintenant une semaine. L'amphibésis, il a été ouvert parce qu'on s'est rendu compte que l'amphibésis n'était plus suffisant pour accueillir toutes les activités. Et on se disait que c'était assez insupportable de devoir attendre que les autres activités se finissent pour pouvoir dormir. Du coup, dans le B6, on a mis des matelas, des sacs de couchage. Donc les gens qui veulent dormir ici peuvent dormir assez confortablement. Et pour avoir testé, vraiment, j'ai l'impression de dormir chez moi, quoi.
Est-ce qu'il y a des rondes qui sont faites la nuit, par exemple, pour potentielles interventions ou même pour la sécurité des occupants?
Oui, on essaye de faire des rondes, on essaye de s'organiser, donc faire, je sais pas, des rondes toutes les 30, 45 minutes, des trucs comme ça. Et c'est vraiment pour assurer la sécurité. On essaye de se cagouler comme on fait en manif parce qu'on ne sait pas qui peut être là et on ne sait pas s'il y aura une menace éventuelle et tout ça. Donc on essaye de se protéger et de s'armer. On ne sait jamais si quelqu'un est agressif, au moins on peut se défendre. Bah pour le moment, on a juste vu des personnes assez étranges faire le tour de la fac. Donc par exemple, la dernière fois, on a vu deux personnes à moto avec une GoPro sur la tête et ils sont partis juste après. Enfin, ils ont filmé 5 minutes et ensuite ils sont partis. Pour le moment, c'est assez sûr à l'intérieur, mais pour l'extérieur, on essaye de se défendre comme on peut, quoi.
Il y a combien de personnes qui dorment ici à peu près tous les soirs?
Ça dépend des nuits, mais on peut être entre 10 et 50 parfois.
Alors là, on est devant un panneau un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en parler?
Bah, en gros, il y a eu l'idée de créer une université populaire à Rennes 2. Et donc, il y a eu le comité d'éducation populaire qui a mis sur un tableau des feuilles pour mettre les ateliers, les débats, les cours qu'on veut donner dans cette université populaire. Et donc là, par exemple, il y a une feuille sur les ateliers formation. Donc par exemple, il y a l'idée de faire un atelier massage ou atelier écriture journalistique ou un atelier passe à Linux. Et l'idée, en fait, c'est s'il y a une dizaine de barres qui sont marquées sur la feuille, et ben, le dixième va mettre sur le planning à quelle heure on fait l'atelier. Et donc là, par exemple, c'est marqué que ça serait mieux de le faire le mardi après-midi dans l'occupation.
Comment vous organisez pour communiquer vos informations à l'intérieur de l'occupation et plus généralement du blocus?
On a un groupe Facebook qui s'appelle le comité de mobilisation de Rennes 2 et aussi pour quelque chose qui est vraiment spécialisé sur l'occupation, on a la page La Commune du Bayou qui est aussi sur Twitter et on a aussi une liste SMS donc pour les gens qui sont vraiment impliqués dans la mobilisation ou ceux qui veulent s'y engager, il y a une liste qui est faite à chaque AG et donc les gens mettent leur numéro de téléphone et ensuite on leur envoie un SMS pour les informer de ce qui se passe et donc ensuite les infos sont relayées sur Facebook et sur Twitter et sur la liste SMS et donc les gens peuvent voir ce qui se passe. On essaye d'informer de ce qu'il y aura dans la journée, donc on regarde le planning, on regarde ce qui est envoyé sur la liste SMS et ensuite on le communique partout. On crée même des événements pour les trucs vraiment gros, genre par exemple la conférence gesticulée qu'il y aura de je sais plus quel intervenant, il y a eu un événement dessus. La soirée mai 68 qui a eu dimanche, il y a eu un événement dessus. Enfin, dès qu'il y a quelque chose de vraiment important et intéressant, on fait un événement. Et donc les gens disent s'ils sont intéressés ou s'ils y participent, quoi.
Parce que vos identités actuellement sont associées aux... Vos identités Facebook sont sûrement associées au mouvement. Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en question? Est-ce que vous allez problématiser... Enfin, poser problème en assemblée générale ou...
Bah en fait, on essaye déjà de dissocier nos identités personnelles et de nos identités de l'AG. Donc en gros, les gens ont des comptes de l'AG et ils essayent de faire en sorte qu'on ne les identifie pas trop. Donc c'est vraiment pour la sécurisation des données et pas non plus pour faire du fake, genre gonfler les chiffres. C'est vraiment juste pour éviter que ce soit rattaché à quelqu'un. Même si moi je le fais de manière personnelle parce que j'ai un peu la flemme de faire des comptes juste pour ça, j'essaye de pas trop m'appliquer sur Facebook parce que les gens voient que je suis sur Facebook. Mais sinon je vois que je commence à devenir une figure assez importante dans la mobilisation, dans le sens où j'ai déjà reçu des insultes, que ce soit sur Twitter ou même dans la vraie vie. Donc en fait, il y a toujours un juste milieu à trouver donc sur la sécurisation de ses données et aussi de sa propre personne. Et ça, c'est un combat de tous les jours, donc on essaye de voir comment faire à chaque fois qu'il y a un gros événement à faire, quoi.
Le bâtiment est occupé, il y a un truc très motivant dans l'air, certaines AG regroupent même plusieurs milliers de personnes. Il y a de l'espoir, de l'esprit de révolte, on est à Rennes 2 La Rouge. Mais bon, quand on occupe un bâtiment à plusieurs, il faut trouver de la cohérence. Quand on veut faire un mouvement de gauche, eh bien, il faut se préoccuper, comme on l'a entendu, de l'égalité homme-femme, c'est pas toujours évident. Le collectif, l'autogestion, tout le monde n'est pas forcément d'accord, n'a pas la même vision des choses. Il faut organiser aussi des comités de mobilisation pour rendre tout ça concret. Et puis il y a la pression, la peur de la sécu, de la police, qui peut se transformer en parano parfois. Puis ils ont peur de se faire virer, mais voire même de voir débarquer des casseurs de gauchistes. Donc l'ambiance est un peu tendue, mais l'espoir est là. Et du côté des bénévoles de SILAB, la motive est là aussi, notamment durant les manifestations.
Jeudi 19 avril, les étudiants de Rennes 2 se sont réunis sur le campus Villejean avant de partir en manifestation. Certains sont intervenus pour appeler leurs enseignants à soutenir le mouvement.
Si c'est possible de leur part d'essayer d'être le plus présent dans les médias de masse, c'est-à-dire à la télé, à la radio ou dans les quotidiens, s'ils peuvent d'essayer de se faire inviter ou à chaque fois qu'ils sont invités d'y aller pour bien montrer qu'ils sont avec nous. Et voilà, pour bien montrer à toute la population que les profs sont avec nous et que c'est pas juste un mouvement d'étudiants immatures, etc.
Après deux assemblées générales historiques, par leur nombre de participants, ils étaient nombreux à manifester ce jeudi et à vouloir défendre leur vision de l'université.
Le blocus et manifestation, c'est un des seuls moyens qu'on a pour protester, pour montrer qu'on est contre. Donc je trouve ça important de se mobiliser. Bah, c'est pour notre avenir, en fait.
Il faut vraiment montrer qu'on est vraiment mobilisés et tous soudés.
Il y a aussi le fait que maintenant, les études, c'est surtout tourné pour avoir un emploi à la fin. Pour moi, l'université, c'est pas ça, c'est faire ce qu'on a envie, c'est d'apprendre ce qu'on a envie, de trouver un peu ta voie là-dedans.
Ce n'était pas seulement une manifestation des étudiants, mais il semblait important pour eux de croiser les luttes.
En tant qu'étudiant, on est futurs travailleurs. Donc c'est important de montrer notre soutien, en fait, qu'on est tous contre, en général, la politique que mène Macron. Et montrer aussi en tant que utilisateur des services publics, on est directement touché.
Le cortège est parti de Villejean et a rejoint les autres cortèges place du Général de Gaulle sans débordement au début de la manifestation.
En étudiant, ça vaut 6 000, ça reste moins cher que 20 missiles.
Des zadistes ont rejoint le cortège et ont entonné leur fameux chant « La ZAD vivra, la ZAD vaincra » avec les étudiants. Finalement, l'ensemble de la manifestation s'est déroulé sans débordement ni combat, malgré la présence de CRS et de la BAC qui fermaient tous les accès au centre nord.
Donc là, on est le 19 avril, tout le monde est vraiment hyper chaud. Certains étudiants pensent même que le rapport de force peut, un jour, à un moment donné, être en leur faveur. Et du côté des bénévoles de SILAB, ça ne s'arrête pas. Ils sont sur tous les fronts, ils vont faire des reportages partout. Et même, par exemple, à la fête à Macron, à Paris, où ils arrivent même à glaner des propos de Ruffin et Mélenchon, des encouragements, en fait.
J'ai envie de leur dire de continuer, mais ils sont vraisemblablement une minorité agissante. Ils sont vraisemblablement la tête avancée du mouvement. Et je voudrais leur dire, là je m'adresse à des militants, les minorités peuvent beaucoup, mais à condition de trouver le chemin des gens, du peuple, des masses. Et je voudrais inviter les minorités qui agissent à ne jamais oublier de chercher tout le temps le chemin du peuple, des gens et des masses. C'est pas forcément évident, on se prend des râteaux, mais si on n'a pas ça, on perd. Si on n'a que la tête avancée du mouvement, c'est comme une locomotive. Il faut avoir une locomotive, il faut quelqu'un qui tire vers l'avant. Mais il faut que la locomotive, elle se demande tous les jours comment on raccroche les wagons derrière. Et s'il n'y a pas de wagon derrière la locomotive, elle se fera nasser.
Un grand salut, un grand bravo aux étudiants de Rennes. Organisez-vous bien et restez maîtres de vos décisions. Ne vous laissez pas embarquer d'un côté ou de l'autre. Mais vous savez ce qu'il y a à faire. On a confiance en vous et on vous aime.
Conduisez, conduisez,
On a confiance en vous et on vous aime, ça c'est pour Mélenchon. On voit Gruffin a plutôt tendance lui à mettre en garde, mais peu importe, quand les bénévoles reviennent avec ça de Paris, eh ben, ils sont tout simplement ravis. Du côté de Rennes, ça continue à s'organiser. Il y a des choses très bien qui se font, comme par exemple l'invitation de Franck Lepage, conférencier gesticulant, si on peut dire. Il nous explique pourquoi lui c'est important d'être là pour soutenir ses étudiants.
Pourquoi c'est important pour vous justement d'intervenir dans ce genre de contexte, dans ce genre d'université populaire ?
Pour soutenir, enfin... c'est essentiel enfin, que des étudiants aient le courage de faire ça parce que c'est enfin, ceux qui disent qu'ils s'amusent n'ont rien compris. Enfin, c'est risqué, c'est dangereux. Non seulement parce qu'on peut se faire expulser violemment par la police, mais parce qu'on peut rater ses études, ses examens. Enfin, je veux dire, ils prennent un risque, enfin, les gens qui font ça. Et donc, moi, je trouve ça vraiment courageux et admirable. Et donc, il se trouve que la conférence que j'ai faite, et qui fait suite à des années et des années de travail sur la question éducative, la question scolaire, il se trouve qu'elle traite de ce sujet. Donc c'était juste parfait de venir parler de ça. Et puis s'il y a des étudiants et des étudiantes qui entendent des trucs qui peuvent utiliser, bah, tant mieux, j'ai tout gagné, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'on a une responsabilité de partager ce qu'on a compris. Bon, moi j'ai compris des trucs, mais parce que j'ai été payé pour, enfin, puis je suis vieux. Donc j'ai bossé, donc il y a plein de trucs que j'ai pigé. Par exemple, cette loi, le vrai but de cette loi, c'est pas directement la sélection, c'est la privatisation. C'est-à-dire que c'est une loi qui prend la suite de la loi LRU, qui a instauré l'autonomie des établissements. C'est une loi qui va permettre aux établissements de choisir leurs élèves. Et donc... Macron, dans le cadre de l'Union européenne, est en train de préparer, comme dans tous les autres pays, il n'y a pas qu'en France, est en train de préparer un marché éducatif où des établissements qui auront choisi leurs élèves vont pouvoir se comparer et avoir une cote. Et ensuite, on pourra choisir d'aller dans celui-là ou dans celui-là, etc. Donc là c'est ça le vrai danger. Et c'est pour ça que les étudiants se battent pas seulement parce qu'on veut les enquiquiner sur la sélection. De toute façon, ceux qui sont là, ils ont déjà gagné la sélection. Enfin, donc, ils se battent bien pour les autres. Enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a une convergence évidente avec le mouvement des cheminots. En fait, les étudiants qui bloquent les facs aujourd'hui se battent pas seulement contre la sélection, ils se battent contre la privatisation. De même que les cheminots se battent contre la privatisation du service public. Ce qui est en train de se passer là, avec cette loi, c'est la privatisation de l'éducation supérieure.
Comme le dit Franck Lepage ici, donc invité par les occupants du Bayou, ce bâtiment B à Rennes, tout le monde pense dans sa tête à la convergence des luttes, tout le monde y croit, bien entendu, même si la pression est de plus en plus forte, et un beau jour où... un mauvais jour, selon certains, eh bien, il fallait s'y attendre, ça arrive, le bâtiment est évacué par les forces de l'ordre. C'est pas habituel, à Rennes, de voir les policiers débarquer, les CRS débarquer sur un campus. Donc forcément, ça choque un peu. Nous, à Silab, on continue à traiter l'actualité, et justement, on a aussi un journal.
18h, c'est l'heure du journal. Depuis plusieurs mois, plusieurs universités de France sont partiellement ou entièrement bloquées en signe de protestation contre la loi ORE Parcoursup. Les différents mouvements étudiants appellent tous à l'abrogation de cette loi, au motif qu'elle va renforcer les inégalités sociales. C'est dans ce contexte que l'université de Rennes 2 était entièrement bloquée depuis le 16 avril dernier. Les étudiants mobilisés avaient alors occupé le bâtiment B, le renommant Le Bayou, et en avaient fait un lieu de vie en collectivité et autogéré, ainsi que de partage aussi divers soit-il. À 4h30 ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues afin d'évacuer le bâtiment et de mettre fin au blocage de l'université. L'évacuation s'est passée relativement rapidement, aucune violence physique et aucun blessé ne sont à déclarer. 4 étudiants présents au moment de l'évacuation nous racontent.
Au début, moi, en fait, on était avec les copains à côté d'une porte, on était en train de faire un tournoi de rapido à une quinzaine, pour se tenir éveillé, tout ça, vu que ça demande un peu de réflexe. Et en fait, un coup, on a entendu un coup sur la porte, donc on a baissé la musique, on a tout stoppé. On a entendu un deuxième coup, on a vite fait aller voir, troisième coup, on a gueulé, il y a les flics et tout, on a essayé de ramener le maximum de monde dans le B7, tous regroupés, etc.
Il y avait le DGSE, Montauban, un professeur de géo, Olivier David, et du coup ils étaient en train de coordonner avec les keufs, les vacs. Voilà. Donc ça s'est fait très rapidement. En 10 minutes, ils avaient défoncé toutes les barricades. Et en 45 minutes, on était dehors fouillés et expulsés. Donc voilà. Ça s'est fait pour une fois dans le calme, à plus ou moins. Des palpations assez dégueulasses, notamment pour les nanas, qui se sont fait palper genre hardcore. Et il y a des CRS qui ont reconnu des personnes, donc voilà, dont moi par exemple, et qui ont insisté du coup lourdement, classique.
Moi perso, j'étais dans la crocothèque, j'étais en train de dormir. Ça faisait à peu près une heure et demie, deux heures que je dormais. J'ai entendu des gens courir, parce que sur le sol ça résonnait vachement. Des gens courir en train de dire tous en B7, tous en B7, ils sont là, ils sont là. J'ai eu le temps de choper mes pompes, prendre mon manteau et puis aller dans le B7. On s'est barricadés. On s'est tous tenus. On était relativement calmes. Quelques personnes qui tremblaient de stress et puis parce que les trois quarts venaient de se réveiller. Ça s'est fait rapidement parce qu'ils ont défoncé la porte. Je n'ai pas trop de précision, mais ils ont défoncé la porte. Ils sont rentrés, ils nous ont demandé si on voulait sortir. On a dit calmement que oui, mais collectivement. C'est pour ça qu'on se tenait. Il y avait des personnes qui étaient restées un peu plus en retrait, qui n'avaient pas eu le temps de venir se barricader en B7. Donc il y a deux camarades qui sont allés les chercher.
On a été deux à aller les chercher, moi et un autre camarade. Donc on a déterminé avec le chef des CRS on allait chercher nos camarades calmement plutôt que ce soit eux. Et donc ils nous ont autorisé, ils nous ont laissé y aller. On n'a pas eu de soucis, on n'a pas eu d'incident. On peut pas vraiment classer ça comme un incident, juste à un moment j'ai été retenu par une matraque parce que j'allais un peu trop vite paraît-il. Mais bon, il n'y a pas eu de violence ni rien, donc ça s'est assez calmement passé. C'était un peu stressant.
Au moment où ils sont revenus, les flics ont dit vous sortez. On avait passé une sorte de marché avec eux comme quoi on restait là, on devait tous sortir en B7. Donc on est sortis tous ensemble. J'étais la première à sortir de l'amphi. Ce qui m'a un petit peu énervée et choquée, c'est qu'il y avait... Premier truc que j'ai vu à part les CRS, c'est un gros appareil photo en plein sur ma figure. J'étais pas très contente, mais bon, j'ai rien dit. J'étais plus en mode j'essaye de me cacher le visage. Et puis on est resté un moment dans le hall, histoire qu'ils fassent une faille dans leur groupement là pour sortir en B7. Il y a eu des fouilles. Sacs, vêtements, ils ont trié filles, garçons. Il n'y avait qu'une femme pour fouiller toutes les filles, donc ça a pris plus de temps. Et on s'est tous regroupés et voilà.
Ils n'ont pas été trop oppressifs, on va dire. J'ai des petites remarques désagréables de certains. On voyait bien que c'était pas tous les mêmes quand même. Il y en avait qui étaient à peu près corrects. Il y en avait d'autres qui avaient l'air d'être un peu en mode ouais, j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Enfin, ça c'est une phrase que j'ai entendue, donc voilà. Mais sinon, il n'y a pas eu trop de problèmes. En ce qui me concerne, j'ai pas eu de problème avec la fouille.
Olivier David, président de l'Université de Rennes 2, revient avec nous sur la décision de solliciter la préfecture afin d'évacuer le bâtiment B sur le campus Villejean.
Elle a été d'autant moins évidente qu'effectivement mon objectif était de sortir plutôt de ce conflit par une situation négociée, c'est-à-dire d'obtenir la tenue des examens moyennant la poursuite du mouvement, des aménagements spécifiques et le maintien des espaces occupés, notamment les amphithéâtres. Malheureusement, vous le savez, le 7 mai dernier, ils ont décidé de voter le blocage des examens. Et là, par rapport aux 25 000 étudiants qui sont les étudiants de Rennes 2, c'était tout simplement impossible d'imaginer un blocage complet des examens.
Olivier David confirme que cette évacuation s'est effectuée sans heurts.
Alors l'opération a démarré à 4h30 jusqu'à 5h30. Elle s'est passée dans le calme, sans aucune forme de violence. La plus grande difficulté a été de pénétrer dans le hall B parce qu'il y avait des barricades très solides. Et à partir de là, les étudiants ayant été regroupés, s'étant regroupés eux-mêmes dans l'amphithéâtre B7, ont été ensuite évacués par le B6 vers l'extérieur des locaux.
Des locaux qui ont été estimés dégradés par la présidence de l'Université de Rennes 2 pendant ce mois d'occupation, avec une facture dont l'estimation est encore approximative.
Nous estimons à peu près être sur une fourchette entre 80 000 et 100 000 euros maximum, rien que pour les dégradations constatées aujourd'hui. Ça, c'est en ignorant tous les coûts indirects, puisque 4 semaines sans fonctionnement à l'université, ça a aussi des répercussions, y compris financières. Et puis, bien sûr, des contraintes, puisqu'il va falloir remettre en état un certain nombre de portes coupe-feu, de systèmes d'incendie, de sécurité, etc. Donc tout ça, c'est des coûts indirects que pour l'instant, on ne sait pas. n'est pas estimé réellement.
La mobilisation continue néanmoins jeudi avec un appel à bloquer les examens et une nouvelle assemblée générale. L'université, elle, s'organise pour que les examens puissent se dérouler.
Eh bien, on suit ça avec beaucoup d'attention, vous imaginez bien. Nous sommes organisés avec les services du rectorat et de la préfecture pour sécuriser le site et permettre que les examens puissent se tenir. Voilà, donc il y a une part d'inconnu dans la situation sur laquelle je ne peux pas avoir de lecture très précise. On verra ce que ça donnera dans les jours qui viennent. Ça dépendra effectivement de la capacité de mobilisation. Oh ben, le dispositif de sécurisation, c'est nous un renfort des équipes internes, hein, puisque nous ne souhaitons pas la présence des forces de police sur le campus hein, en tant que tel. Donc nous allons renforcer les équipes de sécurité interne. Voilà, et puis on fera appel aussi aux équipes pédagogiques de façon à ce qu'il y ait suffisamment de monde pour pouvoir filtrer les entrées, etc.
Vous venez entendre Olivier David, président de l'université de Rennes 2, au micro de Syllab, et on nous informe à l'instant qu'en raison du rassemblement contre l'évacuation du bâtiment B, nous sommes contraints de quitter les studios de Syllab qui se situent eux aussi sur le campus Villejean. On espère pouvoir revenir très très vite dans vos oreilles et continuer à vous informer sur cette lutte. Un article est à votre disposition sur le www.c-lab.fr. C'est la fin de ce journal et malheureusement la fin de ce programme. Donc là, vous l'avez compris, en raison de la manifestation contre l'évacuation et donc pour la réoccupation du bâtiment qui a lieu sur le campus, nous, on se fait virer par mesure de sécurité, par la sécurité. Donc à ce moment-là, bah, l'âme de journaliste, elle prend un peu cher, se faire couper son journal en plein milieu comme ça. Bon, heureusement que certains d'entre nous sont bénévoles, mais tout de même, ça passe assez mal, puisqu'on a du mal, à Syllab comme ailleurs, à se faire vraiment reconnaître comme un média. Par la présidence, ça arrive de temps en temps, par la sécurité, c'est beaucoup plus difficile. Bon, alors nous, on perd pas nos moyens, on quitte le bâtiment, certes, mais on part avec des micros pour couvrir cette manif de réoccupation.
Alors là, je suis présent ici pour protester en fait contre l'expulsion qui a eu lieu ce matin à 5h du matin, je crois, de l'occupation de Rennes 2, enfin de l'occupation du bâtiment B. Et tout ça dans le cadre de la mobilisation contre la loi Or, contre le plan étudiant, globalement pour la défense de l'université et contre la casse du service public. Alors l'objectif du rassemblement, c'est comme tout objectif de rassemblement, c'est de protester. Et enfin, justement, c'est un rassemblement de protestation. Et donc, il y a aussi un autre objectif qui a été voté en AG, qui est la réoccupation immédiate en cas d'expulsion.
Le problème, c'est qu'on sait très bien que le gouvernement, tant qu'on ne l'emmerde pas, ne bougera pas et refusera de voir que l'on est contre cette loi. Et pour nous, le blocage des partiels est vraiment un moyen de montrer que nous sommes contre cette loi et c'est vraiment un moyen de les faire chier au maximum pour qu'ils s'aperçoivent que non, on n'est pas d'accord et on ne les laissera pas faire.
Moi, je suis très positif à Sciences Po. Là, tout à l'heure, j'en sors. On a fait la plus grosse AG qu'on avait jamais faite. On a été 400 sur une école qui compte 700 élèves. Hein. Donc, c'est énorme. On a voté aussi la fin des partiels sous la forme, sous laquelle ils avaient lieu actuellement. Je suis très optimiste, je pense pas que la mobilisation va s'essouffler. Là, on va voir l'AG de jeudi à Rennes 2 et on verra bien.
Les gens se mobilisent bien, les gens sont motivés et on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, des nouvelles personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et donc on se démotive pas, on est là depuis le début pour certains et on est tous là les uns pour les autres et ça continue comme ça, donc c'est bien.
La suite, tout le monde la connaît, la mobilisation s'est essoufflée, les examens ont quand même eu lieu, par voie électronique certes, mais ont tout de même eu lieu. Difficile de dire ce que les personnes gardent dans leur tête et dans leur cœur de cette mobilisation. À Syllab et dans les radios campus de France, nous verrons, nous y serons.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.